Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le 88.8 FM de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com. C'est Sébastien à la réalisation et Stéphane au micro pour vous accueillir pour ce moment autour du festival Sud à Arles 2018 qui se déroulera cette année du 9 au 15 juillet pour sa 23e édition, toujours articulée autour de ces trois scènes principales pour aller à la rencontre des musiques d'un monde pluriel, à la fois conscient de ses traditions, les pieds ancrés dans le présent et rêvant à un futur meilleur. Des moments précieux, cours de l'archevêché, les soirées sud dans le magnifique cadre du théâtre antique et les nuits des forges au parc des ateliers. Mais ce n'est pas tout. Dans une variété de lieux et à des moments différents de la journée, souvent gratuits, vous pourrez y profiter des petits déjeuners orientaux, des projections de documentaires, de salons de musique, de conférences, de la traditionnelle rencontre avec Mediapart et son patron Edoui Plenel autour de la nécessité d'une presse libre et indépendante, d'une visite du musée Réattu avec Yom, des scènes en ville tous les jours et encore gratuitement à 17h30, sans oublier une quarantaine de stages, une nuit de l'amour le 14 juillet. La programmation cette année est toujours aussi ouverte et riche, avec des stars globales venues du Brésil, du Bénin ou de Palestine, Gilberto Gil, Angélique Kidjo ou le trio Joubran respectivement, des créations inspirées et inspirantes avec Grégory Dargent, Pierce Faccini et Jasser Al-Youssef ou encore Rosemary Stanley, vocaliste de Moriarty, et des dancefloors jusqu'au bout de la nuit avec Chege Altin Gun qui revisite la tradition psychédélique turque, ou encore 47 Soul, mais aussi Lucy Bella du Cap Vert, la cumbia de Puerto Candelaria, Yom et ses Wonder Rabbies, le cubain Roberto Fonseca ou encore Tony Gatliff. Ce n'est qu'un petit aperçu de la programmation de la 23e édition des Sud en Arles que vous pouvez découvrir dans son intégralité sur le site internet www.sud-arles.com, mais que nous allons bien sûr évoquer avec notre invité aujourd'hui, Stéphane Krasniewski. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bienvenue, tu es administrateur et programmateur. On se demande comment tu peux faire tout ça sur ce festival qui propose une soixantaine de concerts, qui accueille, c'est de l'année dernière, il y a eu jusqu'à 50 000 visiteurs, je crois.
Oui, chaque édition, on arrive à rassembler 50 000 spectateurs pendant la semaine du festival.
Bah, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu arrives à cumuler ces deux casquettes d'administrateur et programmateur du festival Les Suds. Une programmation que tu es le seul à signer ou
c'est un travail collaboratif. C'est un travail collaboratif, bien sûr. C'est Marie-Josée justement qui est la directrice artistique qui a fondé le festival, qui assume une grosse partie de la programmation et on la signe à deux mains effectivement.
D'accord.
À quatre mains.
Vous avez décidé que comme tous les ans, il y a un thème un petit peu directeur. Mais toujours assez ouvert, hein, de la programmation des Suds à Arles. Et cette année, c'est un thème qui est articulé autour de mémoires liées à des migrations forcées, à des exils. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce thème? Quel a été le déclencheur?
Oui, alors le déclencheur, en fait, souvent, c'est un thème qui surgit après qu'on ait monté la programmation, finalement. C'est-à-dire que ce sont des thèmes qui sont transversaux aux musiques et aux musiques du monde que l'on souhaite présenter. Et c'est vrai que cette année, entre Gilberto Gil, qui va ouvrir les soirées du théâtre antique, Angélique Kidjo, Roberto Fonseca, on s'est aperçu qu'il y avait un fil à tirer sur cette notion de migration et de migration avec tout ce qu'elle implique de beauté, de créativité, de brassage, de métissage, puisque entre le jazz cubain inspiré de racines africaines de Roberto Fonseca, entre les allers-retours que Angélique Kidjo a pu faire entre le continent américain et le Bénin, cette revisitation qu'elle a faite de plusieurs standards de la musique occidentale inspirés par les rythmes béninois. Et puis bien sûr Gilberto Gil qui est l'un des fondateurs de ce mouvement tropicaliste qui a vraiment marqué les années 70 partout dans le monde.
La deuxième migration forcée à laquelle se réfère ce thème de votre festival cette année, c'est celle qui a succédé à la fin de la guerre gréco-turque en 1922 avec cette échange de population assez incroyable.
C'est incroyable. 1 million de personnes qui quittent la Turquie à la fin de la Première Guerre mondiale et qui rejoignent la Grèce et 1 million de Turcs qui, eux, retournent, qui quittent la Grèce pour aller en Turquie. Donc il y a eu un brassage incroyable, là aussi avec, une, avec un foisonnement artistique et culturel qui a donné lieu à... pour la forme la plus connue, en tout cas, au Rebetiko.
Voilà, encore ça, aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était vraiment le Rebetiko trouver ses sources dans ce mouvement migratoire.
Alors, dans ce mouvement, j'y ajouterais même un autre mouvement qui est celui des Juifs qui ont quitté l'Andalousie pour venir s'installer à Thessalonique. Donc, on a vraiment là la rencontre de... C'est une musique de port, en fait. Comme le tango peut être une musique de port, comme le fado est une musique de port, et donc, à partir de là, une musique de brassage, une musique de rencontre. Et le Rebetiko est né de ça, dans les cafés de Thessalonique, avec des musiciens turcs, des musiciens grecs, des musiciens juifs qui ont fui l'Andalousie. L'une des plus emblématiques de ces chanteuses, c'est Rosa Ashkenazi, dont on va d'ailleurs présenter un documentaire dans la journée. Parce que ce sont des musiques qui sont populaires, qui sont très ancrées, qui ont une audience souvent très forte dans leur pays d'origine, mais qui ici méritent d'être recontextualisées, d'être présentées au public dans une approche beaucoup plus globale. Et le festival nous permet justement, par des rencontres avec les artistes, par des espaces de projection, etc., de remettre en situation ces créations.
Alors pour le coup, on pourrait parler un petit peu de Tony Gatliff, qui sera sur scène le jeudi 12 juillet avec son nouveau projet musical, du coup, qui est articulé à un film qu'il a réalisé sur le thème que tu viens un petit peu de nous décrire, qui s'appelle « Jam ». Et qui sera présenté, lui, le lundi 9 juillet.
Tout à fait. On a accueilli Tony Gatliff en 2007 pour un superbe spectacle autour du flamenco, qui a aussi été lié à son film Vertigo, et qui était sur l'Andalousie, sur le flamenco. Et cette année, on a eu le désir et l'envie de l'accueillir à nouveau sur un nouveau projet tiré de Jam. Jam, c'est cette histoire de cette jeune talentueuse comédienne, Patakia, qui quitte la Turquie pour aller vers la Grèce. Et de rencontre en rencontre, eh bien, on a l'histoire musicale de ces différentes migrations. Et de ce film, vraiment centré sur la musique et sur cette histoire de migration. Mais histoire de migration, encore une fois, il a ce talent de les montrer sous un œil positif. Il va évoquer les drames qui existent en Méditerranée, toute l'actualité dramatique de ces dernières années, mais par le prisme de la création, par le prisme de la beauté, par le prisme de la rencontre. Et c'est ce qui va se passer ce 12 juillet au Théâtre Antique.
Troisième de ces migrations forcées que vous évoquez à travers ou avec pour prétexte la programmation du festival, mais qui ça fait sens, hein, puisqu'on à chaque fois ça en effet on le retrouve en filigrane de la programmation. Pour le coup, c'est l'idée est d'évoquer l'histoire de la Palestine avec notamment la présence de alors je sais pas si on dit 47 soul ou 47 soul.
On va dire 47 Soul,
47
je crois.
Soul, voilà. Hein, pour faire honneur à leur ancrage dans la culture hip-hop de ce groupe qui connaît un vrai succès au Moyen-Orient, apparemment.
Tout à fait, ça nous intéresse beaucoup. Alors, eux sont programmés le vendredi soir sur notre scène des Forges, donc notre scène de nuit qu'on ouvre après le Théâtre Antique. Et c'est une scène sur laquelle on a envie de montrer la musique qui fait danser le monde. Et là, on est vraiment sur un projet qui est fait pour danser et qui fait danser tout le Moyen-Orient, tout le monde arabe. Et c'est un vrai phénomène. Et en Égypte, en Jordanie, en Syrie, au Liban, partout où ils jouent dans cette zone, ils remplissent des stades. Ils sont basés à Londres. Ils ont inventé un style qui s'appelle le Sham Step. Le Sham, c'est cette zone justement géographique qui regroupe le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Palestine. Et le Step, donc hérité du Dub Step. Voilà. Et donc on aura le plaisir de les accueillir le vendredi soir. Sur effectivement, alors si le festival n'a pas une thématique globale autre que ces fils que tu tires et qui sont réels, effectivement on a réussi à thématiser plusieurs journées comme celle-ci. Donc on a le jeudi soir une thématique autour de la Grèce et de la Turquie, et ce vendredi on a une thématique autour de la Palestine.
Oui, parce qu'après Tony Gatliff, on l'a pas dit, mais il y a le groupe
Altingen
qu'on a pas mal entendu en playlist toute l'année sur Radio Grenouille, suivi du DJ Mehmet Aslan. Et puis donc, en effet, comme tu le disais, le vendredi 13 juillet, alors il y a la diffusion d'un documentaire autour de
Mahmoud
Darwish. Il y a également Yom qui sera là avec ce Wonder Abyss, donc pour toujours faire écho à cette thématique, on va dire, moyenne-orientale, et à sa vision très particulière aussi de la tradition juive élargie, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Alors, Guillaume, en fait, il sera ce soir-là au Réatus. C'est le lendemain qu'il sera au Forge, lui aussi. Mais effectivement, ça fait écho avec sa vision très décomplexée et très, très inspirée de la tradition de Klezmer.
Et donc, le trio Joubran, qui jouera, lui, au Théâtre Antique, pour un moment précieux, pour le coup. Donc, il ne se déroulera pas à la cour de l'archevêché, mais au Théâtre Antique. Enfin, j'ai envie de dire que tous les concerts du trio Joubran sont des moments précieux. Donc, je vous propose de faire une petite pause musicale avant de te retrouver, Stéphane, au micro des 3-8, pour continuer de parler du Festival Sud à Arles 2018, le trio Joubran. Brann à l'instant sur Radio Grenouille. Stéphane, tu me disais en off que cette formation palestinienne emblématique, s'il en est, avait joué en 2008, il y a 10 ans au Sud.
En 2008, oui, tout à fait. On les avait accueillis à l'occasion des 30 ans d'Actes Sud, parce que ils avaient envie de célébrer l'un de leurs auteurs phares, qui était Mahmoud Darwish. Et c'est à cette occasion que Mahmoud Darwish a donné sa dernière représentation publique, puisqu'il nous a quittés un mois plus tard. Donc ça reste un souvenir extrêmement fort pour nous, évidemment, pour le public également. Et on est ravis de les accueillir 10 ans plus tard, avec cette même formation, puisqu'il y aura le trio accompagné de Youssef Beich aux percussions, et on entendra la voix et les mots de Mahmoud Darwish au Théâtre Antique ce soir.
Alors, je le répète, là, on ne va pas vous détailler la programmation dans cette émission, hein. Reportez-vous par exemple au site internet ou au programme que vous pouvez retrouver dans de nombreux lieux culturels près de chez vous du Festival Les Suds. C'est sud-arles.com pour le site internet où vous pourrez trouver tous les détails. Mais quand même, je t'invite quand même à nous dire quelques mots sur notamment la soirée du 14 juillet qui est donc... notre fête nationale, et que vous avez décidé, ce que je trouve assez chouette en ces temps où la fête nationale est encore sous le signe des défilés militaires, que vous avez décidé de sigler avec le signe de l'amour, puisqu'on est dans la saison de l'amour avec MP 2018, même si Arles n'est pas dans le territoire métropolitain.
Hein. Exactement, voilà. Exactement.
Ça sera la nuit de l'amour, le 14
juillet. Ce sera la nuit de l'amour. Alors, pour le coup, c'est effectivement un événement qui est labellisé par Marseille-Provence 2018. Et pour cette nuit de l'amour, on a essayé de prendre un peu le contre-pied, un contre-pied, on va dire. Voilà. Donc, on va démarrer avec Love, I Obey. Voilà, donc j'obéis à l'amour. Un projet de Rosemary Stanley, comme tu le disais dans ton introduction, c'est la chanteuse de Moriarty. Le concert est complet, mais ça va être un magnifique moment.
Elle est accompagnée d'un ensemble baroque. Hein.
Tout à fait. Donc clavecin, orgue positif, théorbe, enfin voilà, beaucoup d'instruments que mon backliner va s'arracher les cheveux pour trouver. Mais c'est de toute beauté. C'est
autour de répertoire amoureux, donc. Exactement. Du 17e.
17e, voilà, siècle, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Donc, on est ravis. Ça fait longtemps qu'on souhaitait accueillir Rosemary Stanley, qui a vraiment un rapport aux musiques du monde qui va complètement dans l'esprit des Suds, finalement, de celui qu'on essaye de pousser aussi. Et voilà. Et donc là, l'accueillir, c'est un vrai plaisir. On va enchaîner avec Yom and the Wonder Rabbis, donc les rabbins merveilleux qu'on avait accueillis là aussi.
Les rabbins fantastiques ou les rabbins merveilleux, hein, qui sont chargés de répandre un message d'amour sur la terre.
Évidemment. Et là, c'est Love to Die For. Voilà, c'est l'amour me tue, ou l'amour...
L'amour, un amour pour lequel on...
Je suis prêt à mourir. Voilà. Donc ça va être une grande fête, ça va être décalé et assez jubilatoire. Et puis on finira pas tout à fait, parce qu'ensuite il y a les DJ, faut pas que je les oublie, mais avant les DJ et après Yom, on aura l'un des coups de cœur aussi du festival, qui est Cannibal. Cannibal qui est un groupe qui a émergé, je dirais, il y a une année, mais qui est composé de membres qu'on a déjà pu accueillir. Par exemple, la section basse-batterie accompagnait le projet Kouya Tenerman, qu'on avait accueilli là aussi sur les forges. Et c'est une espèce... Enfin, voilà, là, c'est vraiment un projet assez emblématique de ce que sont aussi les musiques du monde actuellement, des projets hybrides composés de musiciens qui puisent leurs influences sans aucun complexe dans la cumbia, dans l'afrobeat, etc. etc. C'est leur histoire, c'est ce qu'ils ont écouté, c'est ce qu'ils ont eu envie de jouer, etc. Et il en ressort un projet dont on entend toutes ces influences-là, et qui là aussi, pour moi, est extrêmement jubilatoire. Et là, le projet a pour titre No Mercy for Love. Donc voilà, pas de pitié pour l'amour.
Et c'est Puta Puta, le duo arlésien de DJ qui terminera la soirée pour cette nuit des forges sous le signe de l'amour, donc la nuit de l'amour le 14 juillet. Tu étais en train de dire... Tu disais en présentant Cannibal, qu'on écoutera en fin d'émission d'ailleurs, que les musiques du monde aujourd'hui sont vraiment dans des formes d'hybridation de plus en plus échevelées, de plus en plus impossibles à démêler presque.
Oui.
Ce qui, j'imagine, doit être à la fois... on les a vus évoluer hein, au cours de ces 20 ou 30 dernières années, ces musiques du monde. Ça a toujours été un petit peu le cas, l'hybridation, le mélange. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'intensifie, ça se densifie. Et ça doit être à la fois un rêve et un cauchemar pour un programmateur aujourd'hui.
Oui.
Mais ça doit être plutôt un rêve de voir en fait les musiques du monde sortir de ce qui a pu être, ou de ce qui pourrait être parfois, une forme de carcan lié aux idées de tradition
ou de communauté.
Exactement.
Non, là, la bonne nouvelle, pour moi, effectivement, l'aspect positif de ces hybridations, création et puis de cette manière que les artistes ont de s'approprier les codes des musiques du monde, des musiques traditionnelles, c'est que les musiques du monde sont partout. On a des musiques du monde sur des festivals électro, sur des festivals de musique actuelle, sur des festivals... sans que la question ne se pose de savoir est-ce que c'est... de quelle tradition ça se rapproche ou quoi. Voilà, le public aussi, parce que la communication s'est accélérée énormément et que l'accès à l'information et à la communication c'est totalement débridé, eh bien voilà, on a maintenant, on peut le dire, des musiques du monde sont partout. Elles sont partout. Et elles sont effectivement sorties de ces cadres. Alors à nous, qui continuons de défendre les musiques du monde pour des raisons qui nous sont propres, des raisons politiques, politiques dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on est, nous, persuadés que la défense de ces musiques du monde contribue à la défense de la diversité culturelle et que cette diversité culturelle, on en a besoin. On en a besoin parce que ça nous permet de connaître l'autre, d'aller à sa rencontre, etc. Donc c'est à nous d'inventer les espaces pour montrer ces nouvelles formes de musique.
Des thématiques qui doivent revenir régulièrement dans les discussions à Zone Franche. Tu es, je crois, co-directeur ou
co-président. Tout à fait.
Pardon, ce réseau national de structures, festivals notamment, mais pas seulement, hein, médias, etc., oui. Qui sont donc plutôt actifs autour des musiques du monde, dont la définition est constamment mouvante, mais c'est un petit peu, ce sont des questions qui reviennent dans les débats à Zone Franche.
La question, le serpent de mer des débats à Zone Franche, ça a été longtemps, mais que sont finalement les musiques du monde ? Voilà. Et c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse, si on la prend par le prisme de l'esthétique. Parce que dans les musiques du monde, il y a de l'électro. Quand on fait Mehmet Aslan, on est dans les musiques du monde. Quand on fait Maurice Luca, on l'a fait l'an dernier sur la friche La Belle de Mai, c'est des musiques du monde et c'est de l'électro. Ils ne revendiquent même pas, eux, d'ailleurs, l'appellation World Music, qui en anglais ramène encore à d'autres choses. Voilà, donc les musiques du monde, par le prisme esthétique, ça n'a pas de sens. Ça a un sens si on se dit que ce sont des musiques qui sont ancrées dans une ère culturelle ou géographique, qu'elles soient vécues ou fantasmées. Voilà. Mais effectivement, heureusement, à Zone Franche, on arrive maintenant avec les producteurs qui font partie du réseau, avec les médias, avec les... Voilà, c'est vraiment un réseau de filières qui a plaisir à se retrouver autour de la meilleure manière qu'on peut inventer de présenter cette diversité culturelle.
Est-ce que des barrières sont peut-être tombées, deviennent de plus en plus poreuses ? Est-ce que toi, voilà, ça fait quelques années maintenant que tu es actif dans ce domaine-là, et notamment au Sud. Est-ce que tu as l'impression de voir une situation évoluer, que ce soit dans la perception que peuvent avoir professionnels ou le public de ces musiques-là, encore une fois ?
D'un point de vue public, vraiment, on sent qu'il y a un vrai engouement et un vrai... Voilà, le public nous suit. Sur les Suds, on a, comme tu le disais tout à l'heure, on a 50 000 personnes. Et même cette scène des Forges, qui était un peu un pari pour nous, on l'a ouverte il y a 10 ans, 11 ans maintenant. Et c'est vrai qu'une scène dont le concert démarre à minuit 30, on est vraiment... Les Suds à Arles, c'est vraiment un festival... c'est pas un festival monocite, on a des sites partout dans la ville, tu disais, il y a le Théâtre Antique, il y a l'Archevêché, il y a les Forges, voilà. On est un peu partout dans la ville.
Il y a différents types de publics aussi qui se croisent également.
Mais l'idée, c'est de réussir à les amener à se croiser, et ça fonctionne. Et on a réussi, sur les Nuits des Forges par exemple, qui présente le versant le plus électrique et électronique de ces musiques, à fidéliser vraiment un public qui ne vient que pour ça. Donc du point de vue du public, j'ai pas de soucis, le public suit, on est je pense là où il faut être. Après effectivement, quand on a à défendre des projets comme le nôtre ou comme d'autres, il faut réussir à faire comprendre l'intérêt et la pertinence de ces projets dans un contexte, celui des musiques vivantes, où, ma foi, on assiste à un phénomène de concentration et d'uniformisation qui va à l'encontre de ce que l'on essaye de défendre.
Et de financiarisation, presque, voilà. J'allais dire aussi. Ouais. D'accord. Nous allons maintenant écouter le deuxième de tes choix, Stéphane, parce que c'est toi qui as opéré les choix musicaux pour cette émission. Il s'agit de... je crois que c'est l'un de tes coups de cœur aussi dans cette édition. Il s'agit de Xylorus White, association assez imprévue. Il y a depuis 4 ans maintenant, je crois, c'est un duo. Oui. Ils tournent ensemble depuis 4 ans entre le batteur Jim White et un musicien grec.
C'est ça. Crétois, même précisément. Crétois. Voilà, Jim White. Donc effectivement, c'est la rencontre et qui illustre assez bien ce que l'on vient de se dire, puisque on a d'un côté un musicien qui est issu de la tradition crétoise, et non seulement de la tradition, mais j'ai envie de dire d'une lignée, puisque son père lui-même était musicien, il accompagnait son père lors de tournées internationales, son oncle également était un musicien très connu en Grèce.
Georges Xylouris.
Exactement, voilà. Georges Xylouris, qui est non seulement chanteur, mais aussi joueur de lauto. Lauto, c'est une forme hybride entre le saz et le oud. Donc c'est ce musicien qui est d'origine crétoise, qui œuvre aussi dans le champ de la musique traditionnelle, a fait la rencontre de Jim White. Jim White, c'est un batteur qui est bien connu des fans de Nick Cave qui ont suivi les Dirty Three, mais il a également accompagné Cat Power, il a accompagné PJ Harvey, Marianne Faithfull, etc. Voilà. Donc il vient vraiment de cette galaxie rock plutôt indé, et la rencontre en fait fonctionne, selon moi en tout cas, extrêmement bien, dans le sens où elle amène un nouvel objet, une nouvelle approche de cette musique traditionnelle, voilà, qui tend vers un blues très archaïque avec la voix très puissante de Georges Xylouris et le jeu extrêmement aérien de Jim White.
Xylouris White en concert le jeudi 12 juillet au Sud Arles. Xiloris White, à l'instant dans cette émission consacrée au Festival Sud à Arles 2018, toujours avec Stéphane Krasniewski, administrateur et programmateur du festival. Alors, les Suds, c'est un festival, mais c'est aussi, ça a toujours été le cas, mais de plus en plus, vous avez accentué cette dynamique avec des soirées hivernales, notamment,
oui, tout à
cette
fait.
Année, en région, sur des petites jauges et dans des petites salles et dans des petites villes. Donc, l'idée, c'est d'être présent toute l'année, mais aussi de faire un travail de fond, peut-être.
Oui, l'idée, c'est de faire exister le festival ailleurs et à un autre moment. Au départ, c'est ça. Et finalement, on s'est intéressé à notre territoire, au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on allait sur le pays d'Arles, et particulièrement sur l'interco d'Arles, le territoire de l'intercommunalité d'Arles. Et on est allé à Tarascon, à Saint-Martin-de-Croix, à Saint-Pierre-de-Mézorgues. Donc des villages, pour certains, ce sont des villages, mais où on a senti, nous, le besoin d'aller à la rencontre aussi des habitants de ces villages qui ne se sentent parfois pas forcément concernés par les programmations estivales, que ce soit la nôtre ou d'autres événements. Hein. Et c'est vraiment retisser ce lien entre une ville-centre, entre un événement culturel, et puis ces habitants.
Ces rendez-vous étaient gratuits également, hein.
Beaucoup de rendez-vous étaient gratuits. Oui, la plupart des rendez-vous étaient gratuits. On a eu un concert payant, c'était celui qu'on a fait à Arles, d'ailleurs, avec la reformation de Duhoud. Et sinon, effectivement, on a programmé le Chœur de la Plaine, par exemple, au château de Tarascon. On a programmé Isabelle Courroy et Shadi Fati à Saint-Pierre-de-Mézoargues. Voilà, donc on essaye d'adapter la programmation au lieu, évidemment, et puis à l'endroit où on le fait. On a fait une adaptation du poème du Rhône aussi, de Mistral à Boulbon. Voilà, donc c'est vraiment. Mais c'est en plus un patrimoine. Notre région est riche de ce patrimoine qui souvent est méconnu. Alors, évidemment que. À Arles, tout le monde connaît les arènes, tout le monde connaît le théâtre antique, tout le monde connaîtra bientôt la tour Luma qui est en train de sortir de terre, mais c'était intéressant aussi de donner ce coup de projecteur sur ces zones qui sont parfois un peu oubliées.
Alors, pendant le festival en lui-même, qui se déroule, je rappelle, du 9 au 15 cette année, juillet, il y a beaucoup de rendez-vous gratuits aussi. Alors, comment tient l'économie d'un festival qui s'implique comme ça dans une démarche vers des publics différents, que ce soit sur le territoire arlésien ou ailleurs, à d'autres moments de l'année, avec quand je dis aller vers les publics, c'est vraiment avec cette dimension, voilà, de gratuité, donc d'aller à la rencontre vraiment des publics. C'est aussi le cas de plusieurs, de nombre de rendez-vous dans le cadre du festival, notamment en journée. Comment ça tient l'économie aujourd'hui quand on sait que les politiques publiques et les subventions ont, pour quasiment tout le monde, tendance plutôt à baisser d'année en année ces derniers temps, et que l'économie de la culture et de la musique live, globalement, subit une évolution assez radicale en France aujourd'hui. Comment est-ce que vous arrivez à prendre ce virage, à évoluer?
Alors effectivement, on est dans un contexte qui est très mouvant, très, très, très instable même, et donc déstabilisant. On s'attient avec beaucoup d'efforts et beaucoup de générosité. Des générosités de la part des équipes qui constituent et qui construisent un festival comme le nôtre, mais aussi des artistes qui sont très impliqués dans ce type d'événement, et dans les Suds en particulier. Le festival, il peut se permettre encore pour l'instant de présenter autant de choses en gratuit, des artistes émergents, offrir des scènes à des jeunes créations, à des jeunes formations, aussi beaucoup de temps de médiation, et j'y reviens parce que c'est fondamental pour nous que de pouvoir expliquer ce qu'est le flamenco, ce qu'est le rebetiko, ce qu'est voilà, et tous ces moments qui sont indispensables à la bonne compréhension du festival et des musiques du monde et des musiques en général, finalement, parce que c'est ce qui s'applique à nous, s'applique à l'ensemble de la production artistique. Elle mérite d'offrir au public la possibilité de mieux comprendre et de passer derrière les codes, d'acquérir les codes et puis d'en comprendre le sens, ou pas. Après, le public peut choisir de ne pas y aller, c'est un choix. Donc voilà, donc nous, le festival, il repose sur 40% de recettes propres, 40% de subventions publiques et 20% de soutien d'organismes professionnels divers. Voilà, donc effectivement, c'est possible dans ce contexte que tu décrivais, où les subventions publiques ont tendance à baisser. C'est encore possible, lorsque l'on nous en offre la possibilité d'expliquer le sens des choses, de réussir à mobiliser du soutien public qui est indispensable pour continuer d'organiser des événements à vocation culturelle et pas seulement tomber dans le divertissement.
Le mécénat, j'ai vu qu'il y avait un appel au mécénat.
Tout à fait.
Sur le site.
On est sur le champ du mécénat depuis longtemps, mais là, cette année, c'est vrai qu'on a eu l'envie d'aller vers une nouvelle forme de mécénat, qui est le mécénat des particuliers. Le mécénat des particuliers, avec derrière l'idée, au-delà de la défiscalisation auquel ouvre droit les dons en mécénat, de transformer...
66%.
66%, ouais. Tout à fait. Donc pour un apport à 1 000 euros, il en reste 340 euros. Et derrière, on essaye de tisser un lien avec ces mécènes pour les transformer aussi en ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on leur offre des billets pour qu'eux-mêmes les offrent à des gens qui ne connaissent pas le festival, etc. Donc les impliquer et raconter une histoire là aussi tout au long de l'année avec eux pour structurer un autre pan finalement de la gouvernance du festival.
C'est intéressant, on n'est pas loin des stratégies un petit peu de financement participatif, ouais, hein, presque.
Voilà, avec cette logique de co-construction aussi, mm-hmm. et d'écoute partagée, ouais. de nos besoins.
Alors peut-être, on va dire un dernier mot, si tu veux bien, Stéphane, je pense qu'il faut qu'on dise un mot peut-être sur la création de Grégory d'Argent, avant la fin de cette émission, puisque on aura le plaisir avec Radio Grenouille d'être donc présent... Et le mercredi 11 pour un plateau consacré à MP 2018 d'ailleurs, mais aussi le lundi 9 pour un salon de musique, notre traditionnel, j'ai envie de dire, salon de musique, le lundi 9 avec Grégory d'Argent, à qui vous avez donné une carte blanche cette année. Et c'est un musicien assez passionnant, qui n'est pas que musicien, qui est également photographe, et il présentera une partie de son travail d'ailleurs dans le cadre des rencontres photographiques cette année à Arles. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette carte blanche de ce oudiste guitariste assez prolixe.
Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, déjà, c'est un plaisir pour nous qu'il ait répondu à notre invitation, parce qu'on suit Greg depuis de nombreuses années. Il a été présent sur les Suds avec Uriaechi, avec Cervantes, mmh. le projet porté par Manu Théron,
et
Youssef Beich, que l'on retrouvera à Côté-Joie. Ouais. Donc voilà, donc, c'est vrai que souvent, les musiques du monde donnent l'impression d'être une grande famille. Et Greg, finalement, était sur Arles. On aurait souhaité accueillir son projet H, qui est un projet à la fois photographique et musical, qui rassemble autour de lui Anil au violoncelle et Wassim Alal aux percussions.
Avec en toile de fond les essais nucléaires
exactement.
Français en Algérie.
Alors,
il
allait lui faire un reportage dans le sud de l'Algérie sur ces zones qui ont été impactées par les essais atomiques dans les années 60. Mm-hmm. Donc il a fait un travail en photo noir et blanc très fort. Et voilà. Et il se trouve que programmer, c'est quand même aussi la rencontre d'un artiste, d'un lieu et d'un temps. Et que là, pour ce projet qui est très exigeant, passionnant mais très exigeant, on n'avait cette année pas le lieu à adapter. Donc, on en a parlé avec lui et on lui a dit, mais si tu es là, viens peut-être quand même malgré tout présenter ton projet. On commence à inventer l'histoire. On vous propose à Radio Grenouille de venir faire cette émission. Il est ravi, enchanté. Et puis de fil en aiguille, finalement, il en est venu à nous proposer une carte blanche où il va inviter des artistes avec lesquels il a déjà collaboré et qui se trouvent être présents sur le festival. Ou pas loin. Donc on aura le soir à l'Archevêché, et bien donc son trio, Wassim, Anil et Greg au oud, avec Pierce Faccini, avec Manu Théron, avec Clotilde Rulot, Awina Burgess, et peut-être encore d'autres invités qui vont revisiter le répertoire des uns et des autres, tout ça mis en musique par Greg. Et je parlais tout à l'heure de la générosité des musiciens, mais c'est un très bel exemple de générosité, parce que effectivement on est ce soir-là logiquement et on est sur une scène qu'on n'a pas pu occuper cette année, et il a répondu à notre appel en montant de lui-même une création.
Grégory d'Argent en concert à 21h30 lundi 9 juillet. Le salon de musique, c'est à 15h et ça sera enregistré avec Sébastien, qui est en ce moment à la technique, et votre serviteur au micro. Et on vous le diffusera mercredi 11, où Grenouille sera encore présente dans le cadre des Suds à Arles pour une émission en collaboration avec la Radio des Suds, d'ailleurs. Hein, je crois.
Tout à fait. Mais...
Voilà, je crois qu'on a presque tout dit. Stéphane, on va écouter Cannibal pour se quitter, mais avant ça, peut-être une dernière question. Quel est l'artiste ou le groupe que tu n'as pas réussi à avoir cette année, et que ton plus grand regret, et que tu essaieras absolument d'avoir sur une édition prochaine?
On aura, j'espère, là c'est spontané, hein, c'est le Moscovitz Dance Band.
Ah oui. Mmh.
Voilà, de Moscovitz Dance Band, on aurait aimé... Les Néerlandais, tout à fait, dont une partie est d'ailleurs fait partie de Altingen.
D'accord.
Et voilà, qui est un projet qui est très prometteur, qu'on avait optionné, mais qui finalement n'a pas pu venir. Mais voilà.
Les Néerlandais tropicalistes, voilà.
Exactement.
C'est chercher le mot. Ok, bon, ben, on se donne rendez-vous déjà du 9 au 15 juillet, puis peut-être l'année prochaine avec Moscovitz Dance Band et plein d'autres choses à découvrir. Mais voilà, on vous invite à vous rendre à Arles pour cette 23e et superbe édition des Suds, du 9 au 15. Plus d'infos sud au pluriel arles.com. Merci beaucoup Stéphane Krasnicki d'avoir été notre invité pour cette émission. Et on se quitte donc avec Cannibal, qui est programmé dans le cadre de la Nuit de l'Amour, samedi 14 à Arles. Bye bye.